Vous écoutez France Culture.
Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques, des nouvelles technologies et de leurs usages. Un sujet aujourd'hui et un seul, l'autobiographie numérique de Tristan Nitaud avec Tristan Nitaud. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Tristan Nitaud.
Bonjour.
Alors il y a quelques semaines, on avait inauguré avec David Dufresne les autobiographies numériques avec pour principe de faire raconter à un acteur de l'informatique ou du web ou des deux sa vie en lien avec ce qui nous intéresse ici dans Place de la Toile. Avec David Dufresne, on avait parlé de son histoire personnelle du web journalistique. Avec vous, il en sera autrement. Tristan Nitaud, vous êtes aussi un acteur du web, mais de l'autre côté, disons, plutôt celui de la technique. Depuis 2003, vous dirigez Mozilla Europe que vous avez fondé. Alors, on connaît surtout Mozilla pour développer Firefox. C'est un navigateur d'un genre particulier. Alors, un navigateur, c'est un logiciel qui permet de naviguer sur le web, hein, les plus connus étant Internet Explorer ou Safari, par exemple. Dans quelques jours, sort une nouvelle version de Firefox. On va en parler, c'est le prétexte à cette émission. Ce qu'est un navigateur, les extraordinaires problèmes que cela pose de créer un navigateur, et puis le fonctionnement propre de Mozilla, qui n'est pas le même que celui de Microsoft ou de Google, qui développe aussi des navigateurs. Et puis on va évidemment parler de ce qui a précédé cette fonction, Tristan Nitaud, votre histoire avec l'informatique. Elle a précédé évidemment Mozilla, et on commencera par là. Bienvenue dans Place de la Toile, Tristan Nitaud.
Tes idées ne sont plus à la mode. Quand on veut gouverner, ce n'est pas si commode. Il faut évidemment s'adapter au terrain, mettre jour après jour un peu d'eau dans son vin. On m'a dit dans la jungle, il faut qu'on se débrouille. On est bien obligé d'avaler des magouilles, de laisser dans un coin les projets trop coûteux. On va pas tout rater pour des canards boiteux. La porte du bonheur est une porte étroite. On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81.
Alors avant de dérouler votre vie numérique, Tristan Nitaud, ce couplet et ce refrain de la période rock de Jean Ferrat qui atterre Jean-Christophe Francis, notre réalisateur, la porte à droite, pour évoquer en quelques mots ce qui a agité la webosphère française cette semaine, la sortie d'un nouveau site d'information, d'un nouveau journal en ligne Atlantico. Alors événement parce que l'arrivée sur le web français d'un nouveau site d'information est une chose rare, surtout quand c'est ce qu'on appelle un pure player, c'est-à-dire un média qui n'est adossé à aucun autre média. Événement surtout parce que Atlantico est présenté comme un site d'information de droite. Alors, dans les journaux cette semaine, on a pu lire des choses comme Atlantico surfe à contre-courant, ou pour Atlantico, cliquez à droite. Bref, plus encore que ses ambitions journalistiques, c'est cette particularité, être de droite, qui a concentré les commentaires. Alors, il est certain que les autres pure players, j'utilise ce mot parce qu'il n'y en a pas d'autres, hein, les pure players français, que sont par exemple Mediapart, Rue89 ou Bakchiche, sont clairement positionnés à gauche. Néanmoins, les idées de droite ne sont pas aussi absentes que cela du web, ce qui est normal et même tout à fait sain. Mais me suis-je demandé qu'est-ce qu'un site d'information de droite ? Ah, et ben, d'abord, c'est un site d'information qui, dès le premier jour, affirme par exemple, sous la plume de Gaspard Koenig, ancienne plume de Christine Lagarde, que Stéphane Hessel est un extrémiste. Bon. C'est un site qui annonce parmi ses contributeurs des gens comme Paul-Marie Couteau, Chantal Delsol ou Gérard Devilliers, l'écrivain de SAS, qui ne sont pas connus pour être furieusement de gauche. Bon. Mais surtout, c'est un site qui refuse de se qualifier de droite. Le directeur de la rédaction préfère dire que le capitalisme et le libéralisme ne sont pas des gros mots ou que le site ne soutiendra aucun candidat en 2012. Alors pourquoi cette timidité contredite par la lecture de la plupart des papiers, hein ? Prévention journalistique, mais qui tombe bien vite. Ou volonté de ne pas heurter frontalement un esprit de l'Internet aux racines libertariennes et à la méfiance toujours aiguisée. Toujours est-il qu'Atlantico a profité pendant ses premiers jours d'une particularité politique tout en refusant de la revendiquer, ce qui produit une lecture un peu perverse, puisque avant d'aller chercher l'intérêt éventuel de l'information, eh ben, on cherche les preuves de ce positionnement. Et comme on les trouve, eh ben, on passe à autre chose.
Let the Radio Shack TRS-80 put the world of color computing into your home.
Instant loading program packs turn any color TV into an exciting game arcade. But there's more. The color computer is an educational aid, a home management tool, an up-to-the-minute electronic information service. The programmable, expandable TRS-80 color computer from $399 only at Radio Shack, the biggest name in little computers.
Alors Tristan Nito, Thibaut Henton, qui est à côté de moi, a retrouvé cette publicité, vieille publicité, pour un ordinateur. Alors c'est le TRS, alors on ne sait pas si c'est le 80 ou 80.1, enfin, je ne sais pas, parce que vous êtes grand spécialiste du TRS, mais on l'a retrouvé parce que c'est votre découverte de l'informatique, cet ordinateur.
Oui, c'est clairement le truc qui m'a fait tomber dedans quand j'étais petit. Et oui, j'ai entendu, c'est TRS Model 80, TRS 80. Ils disent pas si c'est Model 1 ou Model 3, mais enfin, c'est celui sur lequel j'ai commencé.
Quelles circonstances?
En 1980.
Ouais, 1980. C'est quoi les circonstances de la découverte de cet ordinateur?
Alors à l'époque, je devais être en classe de troisième. Un des amis de mon père, je ne sais comment, s'était acheté un ordinateur personnel, donc un TRS 80. Et il partait en vacances pendant les vacances de Pâques. Et comme il venait de le recevoir juste avant, et que c'était vraiment un truc tout à fait rigolo, il a proposé de me le prêter. Et donc moi, j'habitais pourtant à la campagne à l'époque et je suis resté scotché sur cette machine toutes les vacances de Pâques à y apprendre le langage basique qui était le langage de programmation de l'époque. Il y avait un lecteur de cassette avec un didacticiel pour apprendre le basique et j'ai adoré chaque minute de ces moments-là.
Et qu'est-ce que vous avez aimé là-dedans? Parce que c'était quand même pas des choses très pratiques, très facilement utilisables. Et puis vous avez programmé quoi?
Pas grand-chose, hein, pour être franc, mais j'ai pas programmé grand-chose, mais c'est comme dans la chanson de Jean Ferrat, il y avait cette porte, bon, elle était pas forcément à droite, mais c'était une porte qui s'ouvrait sur quelque chose de très différent. C'est-à-dire que moi, j'étais donc collégien, j'habitais en Seine-Maritime, au milieu des champs, et d'un coup, on touchait à un vrai ordinateur, on pouvait faire ce qu'on voulait à l'ordinateur, enfin, on essayait, ça marchait pas toujours, mais c'était vraiment un univers qui s'ouvrait. Et j'ai tout de suite pressenti un potentiel énorme, peut-être parce que je suis feignant de nature, me dire ça y est, l'ordinateur va travailler à ma place.
Ah c'est ça, un transfert de travail.
Oui, le côté ça y est, il pourrait faire toutes ces choses répétitives à ma place. Enfin, c'était un univers qui s'ouvrait, et puis bon, je suis un peu, je suis devenu un geek avant même qu'on invente le mot, quoi.
C'est ça, vous m'avez dit au téléphone un joli mot, vous m'avez dit je suis un proto-geek.
Oui, je pense que c'est ça. Je ne suis pas sûr de l'étymologie, mais je pense que c'est ça.
Ça marche. Mais alors, du coup, cet ordinateur, il est parti de chez vous?
Il est resté que 15 jours. Malheureusement, j'étais complètement accro. Et puis, coup de bol, peu de temps après, on a déménagé à Paris. Et là, à Paris, il y avait des boutiques d'informatique où je pouvais aller baver sur les vitrines. Je pouvais rentrer. Puis petit à petit, en fait, j'étais accepté par ces différentes boutiques où, en fait, je les aidais à vendre des ordinateurs. Et puis j'avais le droit d'y rester quand il n'y avait pas de clients, je pouvais me servir des ordinateurs.
Mais à 15-16 ans.
Oui, c'est ça, oui.
Ah
oui, non, mais c'était pas mon métier, je faisais ça le mercredi et le week-end.
Hein.
Et tant bien que mal, j'exaspérais mes parents qui voyaient bien que je passais pas beaucoup de temps à faire mon travail d'école.
Mais vous faisiez quoi quand vous aviez la possibilité d'utiliser ces ordinateurs qui étaient dans les magasins?
Eh ben, il y avait des nouveautés qui sortaient. Je lisais des revues d'informatique, des trucs complètement improbables. Il y a encore l'ordinateur individuel, ça doit toujours exister aujourd'hui, mais à l'époque c'était les premiers numéros. Enfin, c'était le balbutiement de ce qui est devenu la micro-informatique aujourd'hui, mais c'était tout à fait exceptionnel. Il y a des choses qui ont complètement disparu, par exemple ce qu'on appelait les ordinateurs de poche.
Ouais, c'était quoi?
Ça ressemblait... en fait, maintenant, on appellerait ça un smartphone, mais sauf que ça n'avait pas du tout de fonction téléphonie. Mmh. Et puis, ça avait un clavier physique. Et puis, c'était genre 8 fois plus gros qu'un BlackBerry ou qu'un Android.
et 200 000 fois moins puissant.
oui, ou peut-être même quelques millions de fois, oui. Mais c'était génial. Après, je me suis mis à faire des logiciels pour des gens, par exemple, qui travaillaient dans la bourse et qui avaient cet ordinateur de poche avec eux. Et ils ouvraient leurs mallettes, comme on faisait les attachés case à l'époque. Les trucs DLC en plastique, là, puis dedans, il y avait l'ordinateur avec sa petite imprimante couleur, avec ses mini stylobies. C'était rigolo comme
tout. Mais là, vous aviez quel âge pour développer des logiciels de gens qui bossent
16 ans, 17
dans la
ans.
Bourse. Ah ouais.
Ouais, alors en fait, c'était drôle parce qu'il passait un coup de fil. Moi, je descendais, il y avait un café en bas de la maison. Il me disait, bon, là, il faudrait changer tel morceau du logiciel. Là, la moyenne flottante qu'il me fait sur les 15 dernières séances, c'est pas bon. Je le voudrais sur 25 dernières séances. Alors, je modifiais le truc comme ça sur la table de café. Puis à la fin, il me payait mon coca et il me laissait un billet de 100 francs.
Et vos parents n'étaient pas un peu effrayés par cette activité?
Bah, j'étais quand même garçon très sage. Alors, faut laisser un espace de liberté aux enfants et vaut mieux ça plutôt que, je sais pas, mettre le feu à des poubelles. Hein, ou... Donc bon, mes parents, ils étaient rassurés. Bon, il est un peu cinglé, il aime bien les ordinateurs. Et voilà.
Et ça faisait pas concurrence au travail scolaire?
Ah si, j'ai quand même réussi à rater mon bac, hein, grâce à ça. Oui.
Quand même. Ouais.
Oui, c'est par la suite, en fait, je me suis intéressé. Alors c'était les premiers pas aussi du Minitel, et je me suis intéressé en fait à la télématique. Comment est-ce qu'on pouvait connecter un ordinateur à distance sur un ordinateur plus gros. Mmh. Et puis alors là, bah, c'était explorer les réseaux, à l'époque où les réseaux n'étaient pas du tout ouverts au grand public, c'était vraiment des trucs professionnels.
Et comment vous faisiez pour ça? Parce que c'était pas simple de faire ça. Comment, enfin, techniquement, quoi?
Eh bien, en fait, grâce à ces rentrées d'argent en vendant mes logiciels, à la fin, j'ai pu m'acheter... Alors, pour Noël, j'avais eu un Sinclair ZX81. Et puis, ensuite, j'ai acheté une machine un peu plus puissante avec cet argent. Et puis je revendais l'ordinateur, je m'achetais mieux. J'ai eu ensuite un Apple II. Et là, j'ai réussi à obtenir d'occasion. J'achetais tout d'occasion, parce que forcément, je restais étudiant, enfin, même... lycéen. Et j'ai récupéré un vieux modem 300 bits par seconde. Je dis bien 300 bits par seconde.
Ouais, c'est ridicule.
Ouais. 30 caractères par seconde. C'est-à-dire aujourd'hui, mais personne n'en voudrait. Ouais. Quelques années plus tard, c'était 14 400 bits par seconde. On trouvait que c'était déjà fabuleux. Et aujourd'hui, n'importe quelle ligne ADSL, c'est entre 6 et 20 mégabits, 20 millions, là où j'étais à 30. 30 unités, et maintenant, une ligne ADSL, c'est 30 millions
de bits. C'était un apprentissage de la patience.
Oui, puis en même temps, on n'envoyait pas de vidéo, il n'y avait pas d'audio, on travaillait sur des ordinateurs qu'avec du texte, donc les données transitaient, il y avait moins de volume de données à faire transiter, donc c'était extrêmement lent. Mais depuis, je suis constamment bluffé par la capacité de ce qu'on a comme capacité de connexion aujourd'hui.
Et qu'est-ce que vous trouviez comme intérêt à aller sur ces réseaux? Qu'est-ce que vous y trouviez, faisiez?
Alors, je crois que j'étais très influencé par un film qui était War Games.
C'est drôle ça,
à
parce
l'époque.
Beaucoup de gens ont été très influencés par ce film.
Ouais, j'ai commencé à le regarder, j'ai pas fini, je l'ai arrêté en me disant je vais le regarder avec mon fils pour lui montrer ce qui me faisait baver à l'époque. Ouais. Donc j'ai vu que le début récemment, mais c'était ça, c'est-à-dire cet ordinateur, ce modem, la possibilité de se connecter à des ordinateurs distants, on savait pas ce qu'il y avait de l'autre côté, c'était protégé par mot de passe, donc bon bah fallait un petit peu bidouiller.
Ah, vous avez hacké dans votre jeunesse.
Oui, mais faut pas le dire à la radio.
Non, au contraire, ça vous donne une sorte d'aura, comme ça, impressionnante.
C'est clair.
Non, mais maintenant, de toute façon, c'est périmé, tout ça, par la loi, votre fête de gloire, ce serait quoi?
Je suis pas un exceptionnel technicien, mais dans le hacking, il y a aussi des choses, il y a un côté social. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on avait réussi à faire, c'était, en fait, pénétrer la communauté des gens qui travaillaient sous Unix, qui eux étaient des vrais hackers au sens des bidouilleurs, quoi. Et de fil en aiguille, on avait plus ou moins infiltré, je sais pas combien d'ordinateurs de la recherche nationale, dans les universités, etc. Parce que quiconque, à partir de le moment où il y avait quelqu'un qui était un petit peu fameux dans le cercle, eh bien, dès qu'un nouvel ordinateur a été acheté et installé dans une faculté, eh bien, on lui ouvrait un compte, c'est-à-dire le droit de se connecter. Et souvent, ce n'était pas de mot de passe ou les mots de passe bidons ou c'était le même mot de passe, etc. Donc, en fait, de fil en aiguille, une fois qu'on avait réussi à en pénétrer un, ce n'était pas tant des problèmes techniques, mais c'est un mélange de technique et de social, c'est-à-dire de comprendre où est-ce qu'il aurait pu avoir un compte, quel nom on lui aurait donné, quel mot de passe il aurait pu utiliser. Et de fil en aiguille, ben en fait, ce qu'on faisait, c'est déjà à l'époque, je sais pas comment ça s'appelait, mais aujourd'hui ça s'appelle du white hat ou white hacker. Mmh. C'est des gens qui sont des hackers du bien. Ouais. En fait, nous on pénétrait un système et après, on détruisait jamais rien. Et après, en fait, on contactait l'administrateur et on lui disait bon ben voilà, on a trouvé ceci, cela. Soyez sympa, on aimerait bien garder des comptes pour nous. Et bon, ça a pas toujours marché. Parfois, on s'est fait avoir. Ils nous disaient, ah oui, alors ils verrouillaient tout, puis à la fin, ils nous jetaient dehors. Puis bon, voilà. Et là, on se retrouvait dans une machine qui était solide, alors on ne pouvait plus rentrer. Mais pendant des années, j'ai eu des comptes à l'université de Bordeaux, exemple. Oui, mais vraiment longtemps après.
Et Tristan Nito, vous dites on. Mais on, c'est qui? C'est
des un groupe de copains, quoi.
Oui. Mais de copains physiques ou alors de copains que vous ne voyiez jamais?
Alors, c'était des copains, c'était un peu des deux, mais on se voyait quand même. C'était beaucoup des Parisiens. Il y avait quelques lieux de rencontres physiques à Paris. Celui que je fréquentais le plus, c'était le Centre mondial de l'informatique et des ressources humaines, qui était un genre de machin fait par JJSS, Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui avait monté. Bah d'ailleurs, il est revenu à la une de l'actualité, du moins le bâtiment, puisqu'il y a des squatteurs qui s'y sont installés. C'est juste en face de l'Élysée. Avenue Matignon, voilà, qui est un bâtiment tout à fait bizarre. Ouais. Et là, il y avait un centre de recherche avec des chercheurs du MIT et il y avait une toute petite partie qui était ouverte au public. Et là, il y avait des terminaux qui traînaient. Et évidemment, on n'avait pas le droit d'y toucher. On devait apprendre, comme c'était dans le programme, il fallait apprendre le langage de programmation Logo et il fallait voir. Enfin, c'était ça qu'il fallait faire. Il y avait des animateurs. Puis dès que l'animateur avait le dos tourné, soit il y avait des logiciels qui étaient piratés sur ces Apple II, soit on se glissait subrepticement jusqu'au terminal. Puis on essayait de voir comment on pouvait se connecter, etc. Et en fait, j'ai fait un stage là-bas. Bon, après avoir piraté leur machine, on m'a dit vas-y, pendant que t'es là, t'as qu'à rester. Et c'est à cet endroit-là, en fait, que j'ai rencontré beaucoup de gens qui aujourd'hui encore, avec qui je suis en contact. Hein, des gens connus, relativement connus, comme Valentin Lacambre.
Ah oui, bien sûr.
J'ai rencontré Valentin il y a 30 ans à cet endroit-là. Voilà.
Il viendra, je pense, faire son autobiographie numérique aussi, Valentin Lacambre.
Qui est-il, en fait?
C'est un des... Oui, c'est une personnalité... aujourd'hui, il ne travaille plus sur les questions de bio, d'ailleurs. Enfin,
oui, tout à fait. Il est, mais Valentin, c'est quelqu'un qui avait fait alterne.org, qui était un hébergeur. Avant ça, il avait fait, je crois, 3615 Internet. Il a fait aussi la société Gandhi.net qui vend des noms de domaines. Il a fait plein d'autres choses. Et en ce moment, il est dans la biologie. Voilà.
Alors, vous avez fini par avoir votre bac.
À l'usure,
bon. Et puis ensuite, vous avez décidé de faire une école d'ingénieur, ce qui était assez logique. L'idée, c'était quoi? C'était
J'étais complètement fondu d'informatique et de fait, si tu veux faire de l'informatique, mon garçon, il faut faire des maths et il faut faire des études d'ingénieur. Alors, la mort dans l'âme, alors, je ne suis vraiment pas fan de maths, j'ai fait une terminale scientifique. Donc ça a été un petit peu douloureux, enfin, je l'ai fait deux fois tellement j'aimais ça. Ensuite, une école d'ingénieur, mais le fait est, c'est que je suis pas du tout un matheux. Quoi.
Et c'est une limite ça pour tout ce qui est de l'ordre de la programmation ou de la compréhension théorique de l'informatique ou même des réseaux?
Non, il faut un esprit logique pour faire certaines choses en informatique. C'est important d'avoir un bon background en maths, mais pas pour tout, en fait. Donc, moi, je suis pas quelqu'un qui est particulièrement matheux. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que je ne suis pas non plus particulièrement bon développeur.
C'est-à-dire, comment on n'est pas bon développeur ou bon développeur ?
Développeur, ça consiste à résoudre des problèmes, en fait, des problèmes logiques. Et un bon développeur, enfin, tout développeur doit résoudre les problèmes qui lui sont présentés. Et un très, très bon développeur, il va résoudre vite et élégamment ces problèmes. Et moi, j'étais juste laborieux.
Alors, c'était lent et inélégant.
Voilà,
lent et moche.
C'était un peu porcin, quoi. Bon, et du coup, bah, on plafonne. Et l'informatique est un de ces domaines un peu particuliers où, en fait, un développeur, un très bon développeur, peut valoir 100 développeurs moyens. Mmh. Vraiment, le type qui sait faire, qui a cette intuition, il a vraiment une valeur extraordinaire. Et j'en faisais pas partie. Mais normal, ils sont 1 sur 100. Hein, donc, Et par contre, il y avait autre chose que je savais bien faire, c'était m'intéresser. J'aurais pu finir journaliste, mais c'est d'ailleurs un de mes échecs dans la vie, ou en tout cas
un aiguillage. Ça n'est pas fini.
Non, mais bon, 44 ans, c'est peut-être pas maintenant que je vais changer de voie non plus.
Donc, ouais, c'était le côté plus humain.
Ouais, le côté didactique. Moi, il n'y a rien qui me fasse plus plaisir que de partager, d'enseigner, de voir quelqu'un avec qui j'échange et je le vois repartir et il est un peu plus fort, un peu plus joyeux, un peu plus de pouvoir dans ses mains.
C'est ce que vous allez essayer de faire en deuxième partie d'émission quand vous allez nous expliquer tous les problèmes que pose un navigateur. Et bon courage pour rendre ça accessible. Alors bon, on passe vite à la école d'ingénieur. Vous perfectionnez quand même d'une manière ou d'une autre. Et puis arrive le web. Enfin, voilà, après ces espèces de balbutiements de la télématique, c'est environ 80, enfin, début des années 90, 94. Là, vous le découvrez, j'imagine, dans la suite logique de votre intérêt pour tout ça. Et qu'est-ce que vous y voyez dans ces premiers usages, Tristan Lito ?
Eh bien, pour la première fois, en fait, ce qui a été intéressant, c'est qu'en 93 ou 94, on commençait tout juste à sortir du réseau informatique qui était dédié aux informaticiens pour commencer à toucher une population un tout petit peu plus générale. Alors, ce n'est pas encore le grand public, ça viendra, mais c'est les premiers pas vers le grand public. C'est-à-dire qu'au lieu de toucher juste des informaticiens, mais déjà, on en touche, c'est-à-dire que l'ordinateur personnel avec lequel j'avais évolué jusqu'à présent était c'était bien, mais on restait seul enfermé dans sa pièce. Là, tout d'un coup, ça commence à ouvrir des perspectives vers des gens à distance avec des centres d'intérêt différents. Et c'est un peu cette notion de village mondial. En fait, on commence à trouver des gens semblables à nous de l'autre bout de la planète. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de se rendre compte que je suis peut-être un peu bizarre vis-à-vis de tous les autres, mais je suis pas le seul et j'ai des frères entre guillemets à l'autre bout du monde. Et quand on commence à toucher des gens qui sont pas simplement des informaticiens, ça ouvre encore d'autres perspectives. C'est-à-dire qu'on va pas simplement te parler de problèmes techniques, mais ce médium nous permet de toucher toutes sortes de gens et donc de toucher aussi tous les autres aspects de la vie et pas simplement parler d'ordinateur, mais ça peut être aussi des aspects sociaux et autres. Moi, l'expérience qui a vraiment changé, qui m'a vraiment ouvert les yeux, un jour, ma future femme, je ne l'avais pas épousée encore, faisait un stage dans une société juridique et son patron lui dit « Je me demande combien il y a de lits d'hôpitaux aux États-Unis qui sont utilisés pour soigner telle maladie exotique. » Et c'est le tout début des années 90. Alors, soit vous avez accès, je ne sais pas, à des gens que vous connaissez qui ont cette réponse-là, mais en France, je ne voyais absolument pas où trouver ça. Peut-être que quelque part, dans une bibliothèque, il y a ça, un truc spécialisé, mais moi, j'étais complètement sec là-dessus, et j'étais connecté à un de ces réseaux, et je pose la question dans un forum, et là, quelqu'un aux États-Unis me répond pendant la nuit, avec le décalage horaire, et le lendemain matin, j'ouvre ma boîte aux lettres, et je vois qui me cite, il avait fait un copier-coller de l'information qu'il avait trouvée dans la Library of Congress aux États-Unis. Et là, les mêmes, on ne parlait plus du tout d'informatique, on parlait du nombre de lits d'hôpitaux aux États-Unis. Et pour une maladie en particulier. Et j'en revenais pas, en fait, qu'on arrivait à partager ce savoir Et tout d'un coup, le cerveau, il venait d'exploser en taille, quoi. Mmh. C'était pas moi dans mon coin, c'était on arrive à travailler ensemble, on arrive à réfléchir, on arrive à partager en tant qu'humain à l'autre bout de la planète, presque instantanément, enfin pendant la nuit, mais déjà à l'époque, hein, j'aurais jamais envoyé un fax aux États-Unis pour ça. Là, cette personne que je connaissais pas donnait la réponse prémâchée avec la source sur un sujet dont j'ignorais tout et je pouvais la communiquer à qui de droit. Et ça, ça a vraiment complètement changé ma perspective.
Alors par ailleurs, professionnellement, vous exercez divers métiers, enfin le même métier ou dans des endroits différents.
Bon, oui.
On va être obligé de passer un peu plus vite, mais vous entrez chez Netscape, qui est une entreprise américaine qui développe notamment un navigateur, donc propriétaire, mais qui par ailleurs travaille sur un projet parallèle qui va donner ensuite Mozilla. Et vous, tout de suite, vous intégrez, donc très rapidement, ce projet-là, qui est l'idée, je pense, hein, mais vous allez me corriger, de développer un navigateur, mais qui n'est plus un navigateur propriétaire, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Netscape a d'abord fait un navigateur, qui est devenu, de fait, le navigateur le plus populaire. On pourrait dire que Netscape, c'est la société qui a fait la meilleure promotion qui soit possible au web. Il a vraiment permis au web de toucher le grand public, donc ça a complètement changé sa nature. Mais en même temps, ça a changé l'ordre établi et certains grands acteurs, en particulier Microsoft, voyaient ça d'un très mauvais œil. Et donc Microsoft a décidé de tuer Netscape. Et Netscape, pour s'en sortir, plutôt que de dire « bon, je travaille tout seul sur mon navigateur et puis j'essaye de le donner ou de le vendre, enfin, et si je le donne, j'essaye de gagner de l'argent de façon détournée », et bien là, Netscape, voyant que ce n'était pas possible par rapport au rouleau compresseur Microsoft, de s'en sortir, simplement c'était David contre Goliath, et bien au lieu de faire un David contre Goliath, on va faire 1000 David contre un seul Goliath. Et donc ils ont proposé d'ouvrir le code et de permettre aux gens de venir contribuer, c'est-à-dire collectivement construire ce navigateur, sachant que le résultat appartient à tous. Et ça a été la première société commerciale cotée en bourse à faire du logiciel libre à cette échelle-là, et surtout à passer d'un modèle propriétaire où on fait tout et on garde le résultat de ce qu'on a fait, à passer à un modèle ouvert et libre où tout le monde peut venir contribuer et le résultat appartient à tous. Entre-temps, Netscape a été absorbé par AOL.
Il y a des problèmes industriels, donc Netscape est absorbé par AOL, puis AOL décide
d'abandonner le projet. Mais ce projet, c'est Mozilla, et ça a donné lieu, quelques années plus tard, à Firefox.
Eh ben, ça va être l'objet de toute la deuxième partie de la discussion, mais en attendant, la lecture de la semaine. La lecture de la semaine est, il faut l'avouer, paresseuse. J'ai souvent parlé ici de Kevin Kelly, donc c'est un intellectuel américain féru de nouvelles technologies et dont les avis sont toujours intéressants. Est paru il y a 6 mois à peu près aux États-Unis son dernier livre, What Technology Wants. Alors c'est un livre épais. Et Kevin Kelly a eu la bonne idée de mettre en ligne sur un de ses blogs, il y a quelques jours, la petite conférence qu'il donne quand on lui demande de présenter son livre. Donc je me suis contenté de la traduire. Son titre, L'équilibre positif de la technologie. Alors avant Darwin, explique Kelly, l'étude de l'histoire naturelle se résumait à une collection infinie de spécimens disposés dans des boîtes en verre. Il n'y avait aucun schéma organisateur pour y mettre de la vie. Darwin, avec la théorie de l'évolution, a apporté une logique à ce défilé d'organismes. Nous sommes aujourd'hui, dit Kevin, dans une situation semblable avec la technologie. Alors même que nous sommes entourés de millions d'inventions, aucune théorie ne nous permet de les comprendre. Nous avons tendance à considérer notre monde technologique comme une suite infinie de nouveautés sans y voir d'ordre. Mon but, dit Kelly tout à fait modestement, est de proposer une théorie relative à la technologie, un cadre qui donne une logique et un contexte à ce défilé d'innovation. Mais pour commencer, précise Kelly, je dois dire que j'ai une vision assez particulière de ce qu'est la technologie. Beaucoup ont tendance à penser que la technologie, c'est un truc qui a été inventé après notre naissance, ou alors un truc qui ne marche pas encore. Bref, que c'est nouveau. Or, insiste Kelly, la technologie inclut les inventions anciennes, comme les montres ou les leviers, ou du matériel qui fonctionne très bien, comme le béton ou les briques. La grande majorité des technologies, dit Kelly, ont été inventées bien avant notre naissance. À ces choses matérielles, là, il faut ajouter d'ailleurs ce qui est intangible, le calendrier, les principes de la comptabilité, les lois, les logiciels, mais aussi l'organisation sociale, les villes. La technologie, c'est tout ça. Plus important, ajoute Kelly, la somme de ces technologies forme un tout qui interagit un peu à la manière d'un écosystème. Et
Et ce super système d'invention interdépendante, je l'appelle, dit Kelly, le technium. Comme la vie elle-même, ce système dans son ensemble n'a pas le même comportement que chacune de ses parties isolément. De la même manière qu'il n'y a rien de la ruche dans une seule abeille, le comportement du technium n'est pas visible dans un iPhone, un couteau ou un réfrigérateur. C'est dans le système dans son ensemble qu'on peut ressentir la vraie influence de la technologie. Et, aussi surprenant que cela puisse paraître, le technium, dit Kelly, suit les mêmes modèles que ceux que Darwin a identifiés pour la vie, à savoir l'évolution. De la même manière qu'on observe au long de l'évolution de la vie une complexité croissante, une diversité croissante et une spécialisation croissante, eh bien la technologie sera dans l'avenir plus complexe, plus diverse et plus spécialisée. Cette conception de la technologie a un versant sombre, dit Kelly. Chaque nouvelle invention apporte autant de solutions qu'elle ne crée de problèmes. De là, on pourrait conclure que le technium est neutre. Mais ce n'est pas si simple, ajoute Kelly. Quand nous avons inventé un nouvel outil, mettons par exemple le marteau, nous avons en même temps créé un nouveau choix, s'en servir pour détruire ou pour créer, pour tuer quelqu'un ou pour construire une maison. Cette décision était une option, une chance, une possibilité que nous n'avions pas avant que cette invention existe. Et cette dose supplémentaire de libre-arbitre est bonne en elle-même, selon Kelly. Avoir le choix est en soi une bonne chose et cela fait pencher l'équilibre de la technologie du côté du bien. Alors d'un petit degré, certes, mais ce degré est tout ce dont nous avons besoin. Alors Kelly ne nie pas le consumérisme qui est parfois à l'œuvre dans la création de nouveaux outils et une possible addiction à l'innovation. Mais, reprend-il, quand nous créons une nouvelle technologie, il y a accroissement des choix, des possibilités et des différences. Et c'est bon, parce que le génie a besoin d'outils propres pour s'exprimer. Mozart, dit Kelly, avait besoin des technologies du piano et du clavecin pour découvrir et développer son génie musical. Imaginez si Mozart était né 2000 ans avant l'invention du piano et la symphonie, et Kelly de répéter le même raisonnement avec Van Gogh ou George Lucas, qui est un peu plus bizarre. Ce dont il s'agit, ce n'est pas simplement l'invention de la nouveauté, dit Kelly. Quand nous créons des technologies, nous participons en fait à quelque chose qui nous dépasse. Nous déployons les mêmes forces que celles qui font la vie. Nous accélérons l'évolution vers l'avenir et nous augmentons les possibilités pour nous, nos enfants et le monde en général. C'est ce que veut la technologie. Voilà pour ce texte de Kevin Kelly, dont l'optimisme est indécrottable. Vous pourrez le retrouver demain matin sur Internet Actu. You got houses, you got yachts, you got diamonds, you got it all. Oh, you living large, right? Well, let me ask you one thing. When you go broke, when you go broke, I bet those same friends, yo, don't mess with you no more. Here we go. I was there when no one knew your name. I was there when you blew up, got large, and had all the fame. Now look how you do. I was there when everything had changed. You think you the shit, big star on top of your game. Now who you gon' call when nothing's right? Who you call when your ass go broke? Who you call when you ain't got no friends hanging with you? And you ain't that high no more. Now who you gon' call when nothing's right? Who you call when your ass go broke? Who you call when you ain't got no friends hanging with you? And you ain't that high no more. Vous écoutez France Culture, Place de la Toile et Missy Elliott, Who You Gonna Call. Et c'est une application directe de la théorie de Kevin Kelly, puisque s'il n'y avait pas eu Mozart, il n'y aurait pas eu Missy Elliott. Et ça, ça aurait été un drame pour l'humanité. Suite de l'autobiographie numérique de Tristan Nitto, nous sommes donc en 2003, à peu près, hein, on a sauté quelques étapes. Et vous fondez Mozilla Europe, que oui. Vous continuez de présider. Donc Mozilla développe prioritairement. Alors après, il y aura, c'est après ou en même temps des mails avec Thunderbird, la possibilité donc d'échanger des mails. Mais le gros travail de Mozilla, c'est donc un navigateur, Firefox. Donc je le rappelle, un navigateur, c'est un logiciel qui permet de naviguer sur le web. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi les enjeux technique, enfin un effort d'un navigateur. En quoi c'est un système ultra compliqué, un navigateur, Tristan Nitto ?
Alors, en théorie, c'est effectivement pas très compliqué. Et pourtant, dans les faits, ça l'est. En fait, c'est Internet, un réseau d'ordinateurs. Sur certains de ces ordinateurs, sont des serveurs, c'est eux qui possèdent les documents, les pages web. Et un navigateur, c'est le logiciel qui est sur votre PC ou maintenant sur les téléphones mobiles et qui va se connecter au serveur en lui disant « envoie-moi tel document ». Le serveur lui envoie le document. Et en fait, ce document, il est séparé en plusieurs morceaux. Dedans, il va y avoir le texte de la page, mais aussi, c'est fait dans un langage qui s'appelle le HTML, la structure de la page. Qu'est-ce qui est le titre, quels sont les paragraphes, où se trouvent les images, etc. Il va y avoir la présentation, ce qu'on appelle la feuille de style, comment sont représentés les titres. Et puis, il va y avoir aussi d'autres fichiers complémentaires, c'est les images d'illustration. Donc ça, c'est la théorie qui est simple. Et puis, dans ce texte, il y a des liens. Donc, quand on clique sur un lien, eh bien, votre navigateur va demander au serveur qui possède le document en question de passer à la page suivante et de lui envoyer à nouveau un document. Ça, en théorie, c'est très simple. Mais seulement, ça, c'est juste la base technologique. Dessus, avec le temps, puisque ça fait à peu près 20 ans que le web existe, eh bien, on a amélioré, on a changé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, même si certaines pages qu'on visite ressemblent à celles aux pages de Wikipédia, c'est-à-dire des pages qui sont statiques et structurées, de plus en plus de pages sont devenues, en tant que telles, de véritables applications. Donc, si vous utilisez un webmail, comme Gmail ou Yahoo Mail, ben en fait, ce n'est pas juste une page statique que vous avez, mais c'est bien un programme qui est téléchargé, qui n'est pas vraiment installé sur votre ordinateur, qui réside en mémoire le temps que vous vous en servez, et puis qui disparaît. Mais cette page, elle est très compliquée, et il y a des tas de systèmes pour pouvoir naviguer de message en message, ou des choses comme ça, entre-temps. Et ça fait que c'est très compliqué. D'autant que il y a des tas de gens qui font des pages web.
C'est ça, il y a en plus la petite création dans son coin.
Voilà, exactement. Et nous, en tant que navigateurs, on doit rester compatible avec toutes ces pages web. Et c'est très compliqué. Parce que certaines pages web sont mal formées, mal structurées. Et donc, inévitablement, on se retrouve à devoir, essayer de comprendre du petit nègre, en fait, si je peux utiliser cette expression-là. C'est-à-dire des pages qui ne sont pas syntaxiquement correctes, comment est-ce qu'il faut les analyser?
C'est-à-dire, vous devez être capable de traduire tous les langages, de montrer toutes les images, et tout ça avec deux enjeux qui soient le plus rapidement possible, j'imagine, et le plus clairement possible.
Oui, et sachant en plus qu'il y a un autre paramètre qui est celui de la sécurité. C'est-à-dire qu'on peut tomber sur des pages web qui sont... Enfin, qui essaye de vous piéger, qui essaye de mettre un logiciel malsain sur votre ordinateur, etc. Donc il y a un enjeu qui est aussi celui de la sécurité. Il faut bien voir que l'Internet, c'est un peu le reflet du monde. Il y a des gentils et des méchants. On peut très bien tomber sur des méchants. Il faut savoir se protéger parce que le navigateur, c'est ce qui va rapatrier un bout d'Internet sur votre ordinateur. Et s'il y a quelque chose de malin, il faut savoir s'en protéger. Donc, c'est un équilibre entre tout ça.
En quoi est-ce que ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, à savoir le fait de faire appel à des développeurs qui ne sont pas simplement salariés par une entreprise comme pour les autres navigateurs que sont, par exemple, Internet Explorer qui est développé par Microsoft ou Safari qui est développé par Apple ou Chrome qui est développé par Google. En quoi le fait de faire appel à d'autres gens, à des gens qui codent dans leur coin, qui vont apporter quelques lignes, etc., en quoi ça permet d'être plus performant et d'obéir à ce que vous nous avez expliqué comme étant les impératifs d'un bon navigateur, Tristan Mito?
Alors en fait, c'est pas tant le fait qu'on permette à des gens de contribuer que la transparence qui va de pair. C'est-à-dire que si on propose un endroit où les gens peuvent se réunir virtuellement, c'est un endroit sur Internet, les gens peuvent se réunir et travailler ensemble à la conception d'un navigateur de nouvelle génération, il faut que chacun puisse voir comment ça fonctionne et pour pouvoir apporter sa contribution. Donc, il n'y a pas d'opacité chez Mozilla parce qu'on fait du logiciel dit libre, c'est-à-dire du logiciel dont le code source est ouvert et sur lequel les gens peuvent contribuer. Donc, cette transparence, ça oblige à l'excellence. C'est-à-dire que si vous êtes mauvais, vous ne pouvez pas le cacher, puisque tout le monde peut regarder par-dessus votre épaule. En plus de ça, on a mis en place un certain nombre de processus qui font que quand quelqu'un veut modifier du code, veut l'améliorer, il est obligé d'expliquer pourquoi il fait ça, quel est le problème qu'il voit et comment il veut le résoudre. Et dans un premier temps, il ne peut faire que des suggestions. Il dit voilà, je pense que telle chose dans mon navigateur, par exemple... Le fonctionnement du bouton retour en arrière, quand même le bouton le plus utilisé, Eh bien, je trouve que c'est pas mal, mais je pense qu'on peut faire mieux. Ça serait bien si on restait appuyé longtemps dessus, eh bien, il me proposait la liste des 10 dernières pages que je viens de visiter. Et non pas juste
la dernière.
Un clic qui m'emmène vers la dernière, mais si je fais un simple clic, il m'emmène sur la dernière. Mais si je reste appuyé longtemps, je veux qu'il m'affiche l'historique de navigation. Alors, à ce moment-là, je vois bien que c'est dans tel morceau du navigateur que qu'il faudrait changer. Et je propose de faire ce changement, et voilà comment je propose de le faire. Après, il y a quelqu'un qui est responsable de l'apparence de Firefox qui va dire « c'est une idée intéressante » ou bien « c'est une idée débile, merci jeune homme, passez votre chemin ». Bon, on essaye quand même d'être poli et puis d'inclure les contributeurs. Et on va lui dire « oui, d'accord, pourquoi pas, donc je vois comment tu fais ta suggestion ». Mais ça et ça, ça va pas, c'est contraire à l'habitude qu'on a dans le projet Mozilla, ou bien c'est pas comme ça qu'on fait dans Firefox, et ça va perturber un certain nombre d'utilisateurs, donc faut pas faire comme ça. Et puis il y a un dialogue qui s'instaure, et puis éventuellement, la modification est acceptée. Et quand il a fait ça un certain nombre de fois, et qu'il a appris comment tout ça, ça fonctionnait, le bénévole, eh bien, on lui dit, bah, ça y est, t'as gagné tes galons, tu as le droit de rajouter du code. Mais à chaque fois que tu veux rajouter du code, il faut quand même que tu demandes. Et même quand le responsable de cette partie du code qu'on appelle un module dit « moi, je voudrais changer telle chose dans le module », eh bien, il doit demander l'autorisation à ses pairs pour le faire. Donc, il y a sans cesse, comme dans les revues scientifiques...
Oui, c'est un modèle de la revue scientifique, c'est intéressant.
La revue par les pairs est systématique chez nous pour assurer la qualité de Firefox.
Et au final, vous avez une idée du nombre de gens qui contribuent C'est compliqué, j'imagine, parce qu'en fait, il y a les gens qui contribuent à la création, au lancement, à la base, puis après, il y a des gens qui contribuent tout le temps, puisqu'il y a quand même des actualisations qui sont faites. C'est possible de compter à peu près ?
Oui, alors en fait, il y a littéralement des dizaines de milliers de personnes qui contribuent.
Ah ouais.
Mais certaines contribuent du code, c'est à peu près de l'ordre du millier. Mais il n'y a pas que du code, en fait, dans Firefox. Il y a, par exemple, les traductions. On va lancer Firefox 4, probablement en 78 langues.
78 langues.
Oui, donc il y a 78 versions de Firefox, une par langue, et puis il y a une version pour Macintosh, une version pour Windows, une version pour Linux, et aussi une version pour Android. Donc voilà, j'ai pas ma calculatrice avec moi, mais c'est 4 fois 78 versions en fait qu'on va sortir. Donc les gens sont chargés de vérifier, de traduire, et pour ça, nous, on est une équipe de permanents, chez Mozilla, qui maintenant vient de passer à 6 personnes. Donc on a 6 personnes pour gérer ces 78 langues.
C'est tout ?
C'est tout.
Ah
donc
ouais.
Il y a beaucoup de bénévoles qui vont faire la traduction, d'autres bénévoles qui vont assurer ce qu'on appelle l'assurance qualité, c'est-à-dire des gens qui vont regarder si tout se passe bien, s'il n'y a pas de défaut, etc. Et ça, de façon générale, il y a beaucoup plus de gens qui font de l'assurance qualité que de gens qui font du code.
Mais oui, ça c'est un peu ce qu'on remarque avec toutes les entreprises qui travaillent dans l'informatique. Mais au final, est-ce que ça garantit un meilleur fonctionnement ? Vous allez dire oui, puisque voilà, vous êtes de Mozilla, mais est-ce que vous êtes plus sûr qu'un autre navigateur ?
Eh bien, en fait... Ce qu'on voit, c'est que une société commerciale traditionnelle qui fait du code propriétaire, c'est-à-dire qui surtout garde secrète la recette entre guillemets qu'est le code source du logiciel, eh bien, elle va avoir tendance à pas communiquer sur les problèmes de sécurité qu'elle rencontre. Un logiciel, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, c'est fait par des humains, donc il y a des erreurs, errare humanum est, même en anglais, on doit pouvoir dire ça.
Il y a 15 jours, on a fait une émission sur le bug où on a expliqué pendant une heure à quel point c'était complexe un logiciel, et je fais juste une parenthèse, mais Roberto Di Cosmo, qui enseigne l'informatique, disait que c'était beaucoup plus facile de construire une fusée que n'importe quel des logiciels qui seraient dans cette fusée.
Voilà. Je crois que les erreurs n'ont pas le même prix non plus.
Voilà.
Donc, en fait, donc il y a des risques d'erreurs, et puis il y a aussi des nouvelles façons d'utiliser des logiciels qui font qu'on peut trouver des trous de sécurité là où on pensait qu'il n'y en avait pas. Et donc, des sociétés qui découvrent des trous de sécurité et qui ont une approche propriétaire ne vont pas avoir tendance à communiquer du tout dessus parce que c'est pas très bon pour l'image,
pour le courant.
Voilà, exactement. Et puis, ils vont aussi pas avoir tendance nécessairement à corriger rapidement le trou de sécurité en question, Parce que ça coûte cher. Il faut tester, il faut faire travailler des développeurs là-dessus, etc. Donc, en fait, ils vont... Et puis, il faut sortir une nouvelle version. Et sortir une nouvelle version, c'est coûteux. Mmh. Et puis, ça, en fait, sortir une nouvelle version, ça embête tout le monde. Parce que c'est du travail pour tout le monde. Même les gens qui ont fait des sites web, il faut voir est-ce que les sites web marchent bien avec la nouvelle version. Bref, ils ont tendance à retarder au maximum la correction de ces erreurs. Et puis, une fois de temps en temps, ils font une grosse mise à jour avec toutes les erreurs qui attendaient, mais tous les trous de sécu qui attendaient depuis longtemps. Et là, tout d'un coup, paf, vous êtes plus sécurisé qu'avant quand vous utilisez cette nouvelle version. Et puis, chez Mozilla, on n'a pas comme ça. C'est pas comme ça. Parce que nous, comme on est transparent, quand quelqu'un trouve une erreur, un trou de sécurité, tout le monde peut le savoir. Alors, il y a un modulo, c'est qu'en fait, on le cache, ce truc-là, mais on le cache très temporairement.
D'accord.
En attendant qu'on l'ait corrigé. Parce que les utilisateurs qui n'ont pas encore le correctif sur le trou de sécurité peuvent être en danger. Donc, dès qu'on trouve un trou de sécurité, on cache ça, mais on le corrige le plus vite possible. Et c'est pour ça que chez Mozilla, en fait, on sort des versions de correction en moyenne toutes les 4 à 6 semaines.
Ah oui.
C'est-à-dire très fréquemment. Donc, si vous utilisez Firefox et que vous voyez une mise à jour, vous dites « Oh zut, il faut que j'applique la mise à jour », je vous encourage à le faire. Ce n'est pas pour vous embêter qu'on le fait. C'est juste parce que ça va être... vous serez plus en sécurité à la suite de ça. Et une fois que le trou de sécurité est corrigé dans les mains de l'utilisateur, eh bien, à ce moment-là, on dévoile l'historique de la correction. Ce qui fait que chacun peut apprendre de nos erreurs et voir à quel point on est diligent dans notre volonté de corriger les trous de sécurité.
Et y a combien d'utilisateurs de Mozilla aujourd'hui, enfin de Firefox aujourd'hui dans le monde ?
À peu près 450 millions.
Par rapport aux autres navigateurs que sont Internet Explorer ? Par exemple, ça fait quoi Internet Explorer ?
Internet Explorer, ça fait, suivant les régions du monde, 50 à 60% des utilisateurs.
Ouais.
Et Firefox, à peu près 30. Le troisième, c'est Google Chrome avec à peu près 10. Et ensuite, c'est Safari qui est entre 5 et 8%.
Et est-ce que, j'imagine que vous voyez des différences assez fortes entre les zones géographiques. Par exemple, je sais qu'en Allemagne, Firefox est très devant. Non, c'est ça hein ?
Oui, tout à fait.
Et comment vous expliquez la différence entre des zones géographiques ? Est-ce qu'il y a quelque chose de politique ? Parce qu'au fond, il faut quand même comprendre que c'est aussi un acte politique de choisir Firefox comme navigateur. C'est à la fois un acte politique et à la fois un acte, disons, technique. C'est un truc assez bizarre. Alors donc, qu'est-ce qui explique que ça fonctionne mieux dans d'autres pays, dans certains pays que dans d'autres ?
Alors, ça dépend dans quelle mesure, en fait, Firefox et son approche ont de l'écho dans les valeurs locales. En Allemagne, en particulier, où un pays qui a longtemps été divisé par le mur, où on savait qu'à l'est il y avait une police qui espionnait les citoyens, il y a une vraie sensibilité à la notion de sécurité et de vie privée qu'on retrouve nettement moins en France et encore moins aux États-Unis. Donc, en fait, le jour où Firefox est sorti, il y avait des tas de gens qui ne voulaient pas passer chez Microsoft et qui utilisaient le vieux navigateur de chez Netscape, usé jusqu'à la corde.
C'était Mosaic, non ?
Non, ça s'appelait Netscape Communicator à l'époque. Et en 2003, le truc était vraiment, ça marchait mal, quoi, parce que le web avait évolué et pas lui. Et quand Firefox est sorti en 2004, du jour au lendemain, il y avait 15% d'irréductibles qui sont passés à Firefox.
Directement, ouais.
Et depuis, ils ont toujours gardé ces 15% de plus dans l'adoption de Firefox, parce qu'il y a cette sensibilité vis-à-vis du respect de la vie privée, et sans appeler ça de la paranoïa, parce que je pense qu'ils ont raison, en fait.
Et comment ça fonctionne économiquement, Mozilla ? Parce que c'était au départ une fondation. Alors, c'est toujours une fondation, mais il y a un petit département corporation qui a été créé pour produire de l'argent.
Oui, le petit département, il est gros. Mais en fait, il y a aux États-Unis une fondation qui s'appelle la Mozilla Foundation, et en Europe, c'est Mozilla Europe, qui est une association de loi 1901. Et la fondation, donc qui est à but non lucratif aux États-Unis, a une filiale à 100% qui s'appelle Mozilla Corporation. Je trouve que le nom est particulièrement mal choisi. J'aurais appelé ça, je sais pas, Mozilla Development ou quelque chose comme ça. Le fait est que ça s'appelle Mozilla Corporation. Et c'est cette organisation-là, cette partie de l'organisation, qui a les contrats avec des partenaires, et c'est elle aussi qui embauche les permanents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la loi américaine marche beaucoup avec de la jurisprudence, en fait. C'est ainsi que c'est structuré là-bas. Et la loi américaine sur les organisations à but non lucratif, les fondations, n'est pas du tout prévue pour une organisation comme la nôtre qui opère dans un marché extrêmement concurrentiel. Il faut voir qu'en face de nous, qui on a comme concurrent, c'est Microsoft, Apple et Google.
Mais justement, alors parlons de ça, parce que par exemple, vous avez un contrat de partenariat, je crois, ça s'appelle comme ça, avec Google.
Oui, tout à fait.
Google est un de vos financeurs.
Tout à fait.
À une échelle qui est...
C'est le numéro un, oui. Donc, c'est le plus important pour nous.
Bon. Or, on sait que Google lance par ailleurs un navigateur... a lancé récemment un navigateur qui s'appelle Chrome. Alors ça, c'est un truc qu'on a un peu de mal à comprendre quand on a un esprit un peu basique comme le mien. C'est-à-dire, comment est-ce que Google va d'un côté vous donner beaucoup d'argent, vous permettre de vivre, de continuer à vivre, et de l'autre côté vous faire concurrence avec Chrome ?
Alors ça, c'est étonnant, mais c'est quelque chose dont c'est une chose à laquelle on est très habitué dans l'informatique, au point qu'on lui a donné un nom. Ça n'est ni de la coopération, ni de la concurrence ou de la compétition, comme on dit en anglais. C'est un mélange des deux. Ça s'appelle la coopétition. C'est-à-dire qu'il y a des...
Le capitalisme est magnifique.
La coopétition est ceci, a ceci de particulier que on est concurrent et à la fois on coopère, mais dans des branches qui sont différentes. Et la façon dont ça fonctionne en fait avec Mozilla et Google est assez simple quand on comprend les bases de la relation. Google est une société qui fait du web, c'est-à-dire qu'en fait, sauf de rares exceptions, tous les services, enfin la façon dont ils touchent leurs clients, ça passe par le web. Et c'est-à-dire qu'en fait, les clients utilisent les services de Google dans un navigateur. Si le navigateur est lent, peu sécurisé, peu performant, eh bien, ça veut dire que les services de Google sont dégradés pour l'utilisateur.
Donc, ils ont intérêt aider un concurrent si le concurrent lui permet...
Voilà.
Que ces services soient bien utilisés.
Donc, ils ont intérêt à avoir des navigateurs de bonne qualité. Donc, en cela, pour eux, Mozilla est très important.
Oui, mais Tristan Nito, il n'empêche que si Google Chrome, donc lancé récemment, est un navigateur qui fonctionne très bien, et de fait, c'est un navigateur qui fonctionne plutôt bien, du coup, vous risquez, vous, de perdre des utilisateurs, d'être moins intéressant, Google de vous donner moins d'argent, et donc de cesser d'exister.
Oui, mais alors, en fait, ce n'est pas de la générosité de la part de Google qu'on voit. C'est-à-dire que si Google, enfin, si on a un contrat avec Google, si ce contrat, il existe, ce n'est pas une subvention. Google, en fait, leur business model, il faut savoir que Google, tout le monde y voit un moteur de recherche. Mais en fait, ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Le vrai métier de Google, c'est la publicité ciblée, c'est-à-dire... suivre le comportement des gens, analyser le comportement des gens pour être capable de leur mettre sous les yeux de la publicité qui leur correspond. Et plus la publicité correspond, plus les gens, un, sont susceptibles de cliquer dessus, et deux, à chaque fois que les gens cliquent, le prix est susceptible d'être élevé. C'est-à-dire que si vous êtes un cadre supérieur, eh bien, Google, via les recherches que vous faites, via les sites que vous visitez, via les publicités sur lesquelles vous cliquez, les endroits où vous connectez, les horaires, etc., c'est énormément de choses sur vous. Et c'est déterminé que vous êtes un homme, la cinquantaine, que vous habitez dans le 92, etc., et va vous proposer des publicités pour des berlines allemandes qui valent probablement dans les 70 000 euros. Et évidemment, cette marque allemande de berline est tout à fait prête à payer peut-être 30 euros à chaque clic. Parce que sur ces 30 euros qu'ils payent, si vous cliquez sur une de leurs publicités, ils ont l'opportunité de vous vendre une voiture qui vaut une véritable fortune. Donc c'est très intéressant pour Google de pister les gens, de les profiler pour pouvoir mettre des publicités qui seront vendues chères aux annonceurs. Donc, c'est ça leur business model. Et en fait, le moteur de recherche Google est là pour attirer les gens, savoir ce qu'ils veulent, parce qu'après tout, la meilleure façon de savoir ce qui vous intéresse, c'est de vous le demander. Eh bien, c'est ce qu'ils font avec un moteur de recherche. Ils vous disent, qu'est-ce que vous voulez chercher? Et alors là, vous cherchez, je sais pas, berline allemande. Et là, évidemment, bah, vous allez vous retrouver, enfin, vous êtes catalogué, ça allume une lumière rouge chez eux et ça vous suit. Et en fait, la relation entre Mozilla et Google, c'est que dans Firefox, vous avez un moteur, une boîte de recherche, vous en avez deux en fait, une sur la page d'accueil par défaut et une en haut à droite de l'interface. Vous pouvez faire des recherches dedans et par défaut, même si ça se change, par défaut, c'est Google parce que c'est le meilleur moteur de recherche. Et donc en fait, on leur vend de l'audience, si vous voulez, pour prendre une référence radiophonique. Nous, on ne piste pas les gens. S'ils choisissent un autre moteur de recherche, ça nous convient tout à fait parce qu'on est à but non lucratif. Tout ce dont on a besoin, c'est suffisamment d'argent pour être pérenne, pour survivre. Et on n'est pas dans une maximisation du profit.
Alors malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Firefox 4 va être lancé. Alors on ne sait jamais avec vous quand.
Bientôt.
Bon. Alors, j'invite les auditeurs à aller voir. C'est assez facile de trouver des renseignements sur les dernières nouveautés de Firefox 4. Est-ce que vous avez une chose comme ça dont vous êtes fier dans ce nouveau navigateur?
Il est beaucoup plus rapide et ça, c'est vraiment visible. L'interface utilisateur a été grandement améliorée. Elle laisse plus de place au contenu et c'est toujours autant une joie de l'utiliser.
C'était la minute pub pour Firefox 4. Merci beaucoup, Tristan Ninto, d'être venu faire votre autobiographie numérique. Alors évidemment, elle est extrêmement parcellaire, mais c'est toujours ça, une autobiographie. C'est toujours un peu parcellaire. La semaine prochaine, on parlera géographie dans Place de la Toile avec Henri Dubois, qui enseigne la géographie à l'Université de Paris-Ouest. C'est Nanterre. On se demandera d'abord ce que le numérique change à la géographie en tant que discipline, les conséquences, par exemple, sur la cartographie, la manière de faire des cartes. Mais on se demandera aussi ce que le numérique et toutes les technologies attenantes changent à notre rapport à l'espace, à la ville, en termes de rapport intellectuel, en termes de rapport physique aussi, mais surtout peut-être en termes de rapport imaginaire à la ville. Ce sera donc dimanche prochain, 17h, dans Place de la Toile. Place de la Toile, Thibaut Henton, à qui j'ai encore une fois pas laissé la parole, mais la prochaine fois, je promets, je la laisserai, Xavier Delaporte. À la technique, aujourd'hui, c'était Stéphane Gobeau. Réalisation, Jean-Christophe Francis. Dans quelques instants, Le Journal, puis Agnès Chauveau, Martin Kenéen, pour les retours du dimanche. Très bonne semaine à toutes et à tous.